Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de clôturer cette deuxième édition de la matinale de l'économie à l'initiative du Président de l'Assemblée et des Journées économiques de Lyon. Et je me réjouis de voir dans cette salle un public varié qui mêle parlementaires, responsables de secteurs publics et privés, universitaires, étudiants, lycéens. Et j'espère qu'après les échanges que vous avez eus, chacun est convaincu, comme moi, que les finances publiques, l'analyse des politiques publiques ne sont pas des sujets distants et désincarnés, mais concernent chacun d'entre nous. Et j'étais très heureux de ce que j'ai entendu. Et d'ailleurs, ce que je disais à l'instant au président, on voit que des personnalités de sensibilités différentes se sont exprimées, partagent souvent le même diagnostic, formulent un certain nombre de propositions, et on se demande pourquoi on est en fait dans une situation aussi difficile dans notre pays. Et pourquoi ces constats partagés, ces propositions n'embrayent pas suffisamment sur un certain nombre de réformes qui apparaissent tout à fait nécessaires dans notre pays. Or, l'action publique est évidemment nécessaire. Elle permet d'assurer des missions essentielles, d'offrir une panoplie de services publics, vous l'avez dit, d'assurer la solidarité, l'égalité des chances, d'investir pour préparer l'avenir. Et notre pays, c'est vrai, a fait le choix collectif d'un niveau élevé d'intervention publique. Les dépenses publiques au sens large, incluant les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de l'assurance maladie, représentent 57,1% de notre richesse nationale, ce qui place notre pays parmi les premiers des 34 pays développés membres de l'OCDE, derrière la Slovénie, la Grèce et la Finlande, et il se situe à un niveau nettement plus important que les pays qui nous sont comparables, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne. Or, ce choix d'un niveau de dépenses publiques élevé, dont devrait résulter, normalement, un niveau élevé de qualité des services publics et une redistribution efficace, ne peut être assumé dans la durée qu'à deux conditions. La première est d'assurer la maîtrise durable des comptes publics. La seconde est d'assurer en permanence le meilleur usage possible des crédits publics. Et c'est parce que notre pays n'a pas assuré avec suffisamment de rigueur le respect de ces deux conditions qu'il est dans une situation toujours préoccupante. Alors je reviens brièvement sur la première condition. Cela fait près de 40 années que le niveau des recettes publiques est sensiblement inférieur à celui des dépenses. Il en résulte un déficit persistant des comptes publics qui a longtemps, il faut reconnaître, suscité l'indifférence chez les décideurs, quelles que soient les majorités politiques. La répétition, année après année, de ces déficits a conduit notre pays à accumuler une dette croissante. Elle représente, sur les bases pas encore actualisées de l'INSEE, 93,5% de notre PIB fin 2013 continue de s'accroître au moment où je parle. Et dans sa quasi-totalité, elle n'est pas la conséquence de dépenses d'investissement, de recherche qui permettrait de préparer l'avenir. Au contraire, elle est avant tout constituée de dépenses courantes qu'il est parfaitement anormal de faire financer, tout au moins dans des proportions aussi considérables, par les générations futures. La dette publique représente aujourd'hui 30 000 euros par Français. Elle impose de payer chaque année une lourde charge d'intérêt de l'ordre de 48 milliards d'euros, davantage que le budget de la Défense nationale, presque autant que l'enseignement scolaire. Et avec un tel niveau de dette, et compte tenu du niveau déjà élevé de la fiscalité, on ne peut qu'exclure que nos créanciers, qui sont pour partie étrangers, en majorité d'ailleurs même étrangers, puissent avoir des doutes quant à la capacité de notre pays à assurer durablement le financement de ses politiques publiques et à se réformer. Et si les taux d'intérêt dont le niveau est historiquement bas remontent ne serait-ce que d'un point de pourcentage, ce sont immédiatement 2 milliards d'euros de charges d'intérêt supplémentaires et 15 milliards au bout de 10 ans, ce qui signifie que les marges de manœuvre sont réduites d'autant. Et pour mettre notre pays à l'abri du risque d'emballement de la dette qui s'est concrétisé dans d'autres pays, pour dégager les marges de manœuvre dont la charge d'intérêt nous prive, pour assurer la cohésion entre les générations, la réduction des déficits et le désendettement apparaissent comme une nécessité. Et compte tenu du niveau élevé des impôts et cotisations sociales, le redressement des comptes publics ne peut passer que par une réduction du poids des dépenses publiques, conformément d'ailleurs aux engagements du gouvernement et du Parlement en la matière. Le ralentissement des dépenses, la Cour des comptes n'a jamais proposé d'ailleurs une réduction drastique de la dépense publique, mais une évolution moins rapide de la dépense publique. Ce ralentissement est nécessaire et je dirais même qu'il constitue en réalité une opportunité pour mieux faire et pour une action publique beaucoup plus efficace. En effet, la deuxième condition qui pourrait rendre acceptable une dépense publique élevée, le bon usage de celle-ci, n'a pas été respecté, loin s'en faut. Lorsque les moyens au service des différentes politiques publiques sont mesurés, notre pays figure souvent parmi les premiers, je le disais. Mais lorsque les résultats sont évalués, ils figurent bien moins souvent dans le peloton de tête. Et j'en prendrai deux ou trois exemples. Dans l'éducation nationale, nos résultats ne sont pas bons. Ils ont plutôt tendance à se détériorer, à se dégrader, progressivement, sans d'ailleurs que cela ne suscite véritablement de sursaut, ni chez les décideurs, ni dans l'opinion. La Cour a constaté que l'organisation de l'éducation nationale n'était ni à même d'assurer la réussite de tous les élèves, ni de répondre aux besoins professionnels des enseignants. Nous y consacrons plutôt plus de crédits que beaucoup d'autres pays. Nous avons un système éducatif aujourd'hui parmi les plus inégalitaires. Si on compare parmi les pays qui peuvent nous être comparables, nous avons des résultats qui se dégradent et nous avons des enseignants qui sont plutôt moins bien payés que dans les autres pays qui nous sont comparables. Cherchons l'erreur. Comme quoi, en matière d'éducation nationale, pour avoir de meilleurs résultats, ce n'est pas obligatoirement en y mettant des crédits supplémentaires ou des emplois supplémentaires qu'on résout le problème. Se contenter d'augmentation de crédits, c'est arroser le sable si parallèlement il n'y a pas une réflexion sur l'organisation, le fonctionnement du système éducatif actuel, sur également la répartition des moyens sur l'ensemble du territoire. Dans le secteur du logement, tout le monde s'accorde pour constater que les dépenses sont élevées par rapport à d'autres pays, et je pense que Cécile Duflot doit en être particulièrement consciente, 40 milliards d'euros, soit près de 10% de la dépense nationale en logement, pour des résultats, reconnaissons-le, extrêmement décevants. Les dispositifs se sont multipliés, empilés les uns sur les autres, sans que leur impact soit évalué. Et la Cour des comptes, dans ses travaux, identifie des aides qui sont insuffisamment ciblées sur ceux qui en ont véritablement besoin. Le même constat peut être fait dans le domaine de la formation professionnelle. Est-il normal, et Raymond Soubi le disait, et François Bourguignon également, que les personnes qui en ont le plus besoin, les chômeurs par exemple, ceux qui sont éloignés de l'emploi, eh bien ce sont les personnes qui sont le moins concernées par les financements de la formation professionnelle. Un meilleur ciblage de l'action publique constitue de loin la principale source d'économie dans les administrations publiques. Or, ce constat préoccupant, alarmiste même, a quelque chose de rassurant, parce que pour réaliser des économies, il n'est pas nécessaire de priver d'aide ceux qui en ont besoin. Il suffit de veiller à ce que le bénéficiaire soit réellement celui qu'on vise. Et cela montre aussi que la défense de notre modèle social ne peut pas passer par un statu quo, ou la défense en toutes circonstances d'une augmentation des moyens qui y sont consacrés. Pour mieux répondre aux objectifs de notre modèle social, la formation professionnelle n'a pas besoin de financement accru, elle a besoin d'une réforme de fond qui permettrait que les réformes bénéficient bien davantage aux publics les plus éloignés de l'emploi. Et je pourrais prendre de nombreux autres exemples tirés des travaux de la Cour des comptes, mais nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à tenir ce discours. Des marges existent pour rendre la dépense publique plus performante. Pour faire mieux, avec autant de moyens, voire avec moins. Évaluer les dépenses, mesurer si elles atteignent bien les objectifs qui leur sont assignés, c'est ce que l'on appelle l'efficacité. Mesurer si elles le font au moindre coût, c'est ce que nous appelons l'efficience. Ça constitue un exercice indispensable et qui a trop longtemps été délaissé. Et notre pays doit consentir un effort d'évaluation régulier de chacune de ses politiques publiques. Cette remise à plat, qu'on l'appelle RGPP ou MAP, doit être régulièrement menée, couvrir tout le champ de l'action publique. Depuis 2008, la Cour des comptes a pour mission d'assister, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, d'assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Elle s'y engage avec détermination. Je me permets d'inviter les parlementaires à davantage encore s'intéresser à l'évaluation de l'impact des actions publiques dont ils votent les crédits. Être député, c'est légiférer, c'est évident. C'est aussi contrôler le gouvernement, l'administration, en tirant les conséquences d'une action insuffisamment performante. Il faut parfois inverser le temps de travail. Des députés peut-être faire en sorte qu'ils consacrent davantage de temps à l'exécution de la dépense plutôt qu'à débattre d'une loi de finances initiale pendant des mois sans en changer d'ailleurs le résultat. Il faut aussi tirer les conséquences des évaluations existantes parce que même si notre culture de l'évaluation est récente et totalement incomplète, il existe quand même quelques travaux d'évaluation. Il faut pouvoir en tirer les conséquences, ça suppose de faire des choix, de fixer des priorités. Et les pouvoirs publics ne doivent pas hésiter à engager les réformes, car derrière toutes les dépenses, même les plus inefficaces, et c'est bien le problème, il existe toujours des intérêts particuliers prêts à se mobiliser pour les défendre. Par exemple, des aides importantes sont consacrées, c'est un petit exemple, mais il est significatif, chaque année au soutien de tous les buralistes, alors que leurs revenus ont pour la plupart régulièrement augmenté. Supprimer des aides inutiles suppose de résister à des intérêts catégoriels, souvent bruyants, pour faire prévaloir l'intérêt général qui est tout sauf la somme des intérêts particuliers. Et cet exemple montre qu'un travail pédagogique sur le sens, l'intérêt des réformes est nécessaire. Sans explication, c'est vrai qu'il n'est pas anormal que le sentiment public s'oriente spontanément en faveur, par exemple, du maintien des aides aux buralistes. Sans explication, on peut aussi être solidaire des taxis, qui craignent une baisse de leur activité si le recours au transport de malades devient moins systématique. Et c'est pourtant bien l'intérêt général qui doit dicter ces réformes recommandées par la Cour des comptes, maîtriser, par exemple, la dépense de transport des malades, qui est l'une des plus dynamiques et les moins contrôlées de notre assurance maladie et dans lesquelles on peut identifier énormément d'abus. En engageant de véritables réformes de l'action publique, la France sert avant tout son propre intérêt, celui du citoyen qui sera remis au cœur de l'action publique, et les marges de manœuvre pour ces réformes existent et sont importantes. Alors, votre première table ronde s'est interrogée sur le lien entre réduction des déficits et croissance. C'est un débat incontournable, car la réduction des dépenses entraîne à court terme un indéniable effet négatif sur la croissance, mais qui peut devenir positif, qui doit devenir positif à moyen et long terme. La Cour, toutefois, est convaincue qu'il ne faut pas tirer argument de cet effet de court terme pour retarder l'action de réduction des déficits, car ne rien faire se révélerait bien plus préjudiciable à notre pays. Le non-respect de ses engagements, une nouvelle fois, entraînerait une perte de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos créanciers, un risque accru de tension sur la dette et serait au final bien plus dangereux pour la croissance et l'indépendance de la France que la poursuite résolue de la réduction des déficits. Ce serait également une occasion manquée pour réformer, moderniser les services publics, pas faire la grande réforme, mais les réformes nécessaires. Il faut être attentif à ce que le débat sur l'impact économique de la consolidation des comptes et son rythme ne dissimule pas en réalité le refus de s'engager dans la voie des réformes. J'ajouterai qu'il est indispensable de réduire sans tarder certaines dépenses inefficaces pour contribuer au redressement des comptes, mais également pour que l'État exerce mieux, tout simplement, ces missions essentielles qui lui sont confiées. La Cour constate à travers de nombreux rapports que certaines politiques publiques essentielles, comme le contrôle sanitaire des aliments, l'administration pénitentiaire, ne sont plus exercées ou mal exercées faute de moyens, faute de choix, faute d'arbitrage, faute de décision politique, faute aussi de faire les redéploiements nécessaires et de faire le tri entre ce qui est indispensable et ce qui l'est moins. Et je voudrais achever mon propos en évoquant un secteur particulier de nos dépenses publiques qui est au cœur de notre protection sociale. C'était le thème de la seconde table ronde, la sécurité sociale. L'ensemble formé par l'assurance maladie, les accidents du travail, les retraites de base, les prestations familiales constitue, vous l'avez dit, l'une des expressions majeures de la République démocratique et sociale qu'affirme l'article 1er de notre Constitution. Et notre pays y consacre des dépenses extrêmement importantes. C'est 463 milliards d'euros en 2014 qui seront en partie financés par le déficit. La spirale de la dette sociale est en effet particulièrement anormale, particulièrement dangereuse, parce que les choses se sont quelque peu aggravées depuis les propos de Simone Veil ou de Georges Pompidou. Et c'est là un mal spécifiquement français qui ne touche pas nos grands voisins européens. Aucun d'entre eux n'accepte que son système de protection sociale ne soit aussi durablement en déficit. Faire payer sans cesse davantage les transferts sociaux d'aujourd'hui par la génération suivante risque de poser la question de la légitimité même d'une sécurité sociale dont le financement effectif serait sans cesse différé et supporté par ceux qui n'ont pas bénéficié de son soutien. C'est pourquoi la résorption rapide du déficit de la sécurité sociale est un enjeu de tout premier rang. Pourquoi faire financer des dépenses courantes par les générations futures ? S'il est des dépenses qu'on ne doit pas financer par emprunt, ce sont bien les dépenses courantes et notamment de protection sociale. Il y aura suffisamment de charges sur les générations futures pour que nous évitions de leur en donner de supplémentaires à partir du moment où nous-mêmes nous n'aurions pas assumé nos responsabilités. Et de réussir est possible. À tous les niveaux de dépenses sociales, des économies peuvent être faites sans remettre en cause notre modèle social, vous l'avez extrêmement bien dit, ni prendre les mesures drastiques d'austérité que d'autres pays ont parfois mises en œuvre. Il y faut l'effort de tous, professionnels de santé, assurés sociaux, caisses de sécurité sociale, qui s'appuient sur les principes qui sont dans notre pays depuis toujours au fondement même de la protection sociale, la responsabilité, la justice, la solidarité. Et la sécurité sociale comporte, nous en sommes convaincus, des marges considérables d'efficience et de progrès. Il en est ainsi en particulier dans le domaine de l'assurance maladie, sans compromettre une fois de plus, bien au contraire, la qualité des soins ni l'égalité d'accès au système de santé. Chaque année, la Cour met en lumière l'importance des économies envisageables dans différents secteurs, les médicaments. Il y a à la fois un problème au niveau des prescriptions, par les professionnels de santé, de consommation aussi, par les assurés sociaux. Il y a des problèmes de fixation des prix des médicaments. Il y a une utilisation insuffisante des génériques dans notre pays, si on compare la situation de la France par rapport à d'autres pays. Les transports sanitaires, les indemnités journalières, les actes de biologie médicale, je pourrais allonger la liste, il y a beaucoup d'exemples. Un autre exemple, et cela a été dit, sur la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire la réalisation d'opérations dans des conditions qui permettent au patient de rentrer chez lui le soir, même du jour où a lieu l'intervention. C'est tout à fait emblématique. Pourtant, son développement, et cela a été particulièrement bien dit, rejoint l'intérêt des patients qui n'ont strictement aucun intérêt à séjourner davantage à l'hôpital, d'autant qu'effectivement, ils peuvent s'exposer à des risques d'infection. En France, 4 interventions seulement sur 10 sont pratiquées en ambulatoire, contre jusqu'à 8 sur 10 dans plusieurs pays qui nous sont comparables, soit moitié moins, et sans que dans ces pays-là, il y ait, je dirais, des accidents de santé qui soient plus nombreux qu'en France. Et selon les estimations, jusqu'à 5 milliards d'économies seraient possibles à terme. Alors, bien sûr, en utilisant mieux les capacités de chirurgie ambulatoire existantes et puis en fermant en conséquence, bien évidemment, les lits de chirurgie conventionnels qui, d'ailleurs, sont extrêmement sous-utilisés. Dans la période de difficultés économiques que connaît notre pays, la sécurité sociale est plus que jamais garante de la cohésion sociale et la préserver, nous sommes les premiers à le reconnaître, n'est pas un enjeu comptable. C'est en cette année où nous commémorons les 70 ans du programme du Conseil national de la Résistance, dont elle est directement issue, une exigence qui justifie un effort d'une ampleur à la hauteur de la nécessité de maintenir un haut degré de protection dans notre pays. Or, les réformes déjà réalisées et celles à venir fournissent l'opportunité d'une modernisation en profondeur de notre protection sociale. Elle devrait en sortir plus juste, plus solidaire, plus responsable, plus efficiente, en un mot, plus forte d'ailleurs, et encore plus légitime. Alors, pour conclure, vous voyez, si le message de la Cour est alarmiste, c'est vrai, sur la réalité de la situation. Bon, je crois qu'il faut que chacun en prenne conscience quand on voit encore les prévisions de l'INSEE pour le premier trimestre de cette année. D'ailleurs, si, honnêtement, augmenter la dépense publique suffisait pour conforter la croissance, ça ferait longtemps que nous serions les champions du monde de la croissance, et ça n'est pas le cas. Donc, si notre discours est alarmiste sur la réalité de la situation, il n'est pas pour autant pessimiste. Il se veut même encourageant à partir du moment où, vous le voyez, il y a des marges de manœuvre pour réduire la dépense publique sans remettre en cause la qualité du service public auquel nous pouvons être attachés. Et notre message se veut au contraire une invitation à l'action pour engager des réformes dans toutes nos administrations compte tenu des marges que la Cour a identifiées. Et ces réformes permettront au contraire de conforter les services publics, de les mettre en situation de mieux atteindre leur objectif, de mettre fin au financement durable par le déficit qui fragilise d'ailleurs le contrat national et de replacer le citoyen au cœur de l'action publique. Voilà, merci beaucoup de votre attention.